je vous remercie pour votre présence. Nous avons quatre procurations. Je les cite. Donc, procuration de M. Solana fait à Mme Maury. Procuration de Mme Gaston faite à Apolline Mallet. Procuration de M. Chantran qui nous fait. Et procuration de Michel Martin à M. Soum. Donc le quorum est atteint. Je vous propose d'ouvrir le conseil municipal de ce jour. Il faut désigner un secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a un volontaire? François Lejeune, merci beaucoup. Nous allons passer à l'approbation du compte rendu de la séance du 11 avril 2016. Je n'ai pas reçu de remarques particulières par rapport à ce que vous avez envoyé, donc je vous propose de le soumettre au vote. Contre? Un contre? Abstention?
Je voudrais dire pourquoi. Je peux dire pourquoi.
Pourquoi le contre?
Oui, pourquoi le contre?
Pour le contre, madame,
excusez-moi.
On vous laisse l'attitude de pouvoir vous exprimer, nous envoyer vos commentaires avant. Voilà,
donc non, mais c'est justement, d'accord. Vous avez envoyé un commentaire avant, ça a été rectifié, je vous en remercie. En revanche, tout n'est pas dit et surtout. Surtout les réponses de la municipalité aux questions que nous posons. Donc nous considérons que le compte rendu de séance ne reflète pas ce qui s'est dit dans la séance.
Comme
c'est pour ça le vote contre.
Ouais. Comme à chaque fois, et voilà, ouais, pour moi c'est un verbatim, mais on a toujours le même débat. Donc, je vous propose de passer au vote. Contre.
Il y en a deux.
Deux. Abstention. Deux. Je vous remercie pour l'approbation de ce compte rendu. Juste avant de commencer l'ordre du jour, concernant donc les différentes informations sur les contentieux en cours, nous étions en jugement au tribunal administratif concernant l'affaire Gilles Dudognon. C'était concernant un retrait de délégation de son poste d'adjoint. Le tribunal administratif a rejeté la requête de M. Dudognon. Concernant un jugement toujours au tribunal administratif concernant l'affaire de Jean-François Loquet, pareil, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. Loquet qui contestait la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée. Vous avez les détails dans le compte rendu. Comme information aussi, là ce n'est pas dans les affaires, dans les litiges, pour votre information, il y a une commission des marchés plein vent qui a été créée pour permettre les échanges avec les exposants du jeudi. Qui permet aussi donc de créer des animations pour pouvoir coordonner, voir aussi les différentes demandes d'implantation sur le marché. Donc cette commission a un rôle de consultation et donner son avis, mais c'est une bonne orientation en tout cas pour les élus. Il y a deux élus qui y participent et après ce sont des représentants du marché qui ont été désignés, enfin élus sur une liste par les commerçants. Voilà, c'était à titre d'information. Nous allons passer au point 1 de l'ordre du jour, concernant la prêt de salle pour l'organisation des élections primaires. Donc ce prêt de salle est autorisé donc, par le Code général des collectivités territoriales et nous a été rappelé aussi par une circulaire de 2011 du ministère de l'Intérieur qui nous ont renvoyé à nouveau. Dans un souci justement d'égalité de traitement et de transparence, il est important de passer ça à l'ordre du jour. On vous propose les règles suivantes. Donc la commune de Rueil accorde à tout parti politique régulièrement déclaré le droit d'utiliser les locaux municipaux afin d'y tenir des élections primaires. La demande doit être adressée par écrit dans les délais suffisamment pour permettre le traitement par l'administration municipale. La mise à disposition sera satisfaite en fonction de la disponibilité effective des salles, utilisation habituelle par les associations ou les particuliers. La mise à disposition des locaux s'effectue à titre gratuit et la mise à disposition de matériel immobilier nécessaire au scrutin, tables, chaises, isoloirs, urnes, est effectuée à titre gratuit. Et les salles qu'on vous propose, la salle du Pigeonnier, la salle Diatezan et l'hôtel du Midi. Donc vous savez qu'il m'en manquait. J'en avais trois justement pour laisser le champ le plus grand pour pouvoir organiser ces primaires. Donc si vous êtes d'accord, je vous demande d'approuver les règles de mise à disposition des locaux comme énoncé et d'autoriser la délivrance de la liste électorale de la commune à titre gratuit, sachant qu'on délivre déjà sur demande les listes électorales et que ça peut être soumis à une contribution financière pour les photocopies et autres, etc.
Oui. Juste un point. La demande doit être adressée par écrit dans des délais suffisants pour permettre son traitement. Est-ce qu'ils sont mentionnés les délais?
Non, mais c'est un délai raisonnable. Là, vraiment, on a une véritable volonté de pouvoir donner les salles. Oui, oui. La difficulté qu'on a, c'est qu'il faut que les gens se positionnent rapidement en fonction pour que la salle ne soit pas prise par les particuliers, qu'on puisse informer l'association en question.
Oui. Donc, il n'y a pas de...
Si on nous demande une semaine à l'autre...
Il n'y a pas un nombre de jours de délai.
Non, non. Mais comme pour tout particulier, voilà. C'est après... les services sont diligents et font nécessaire. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de soumettre ce point au vote. Contre ? Abstention ? Approuvé, je vous remercie. Donc, le point 2, c'est le tirage au sort des jurés d'assises pour 2017. Donc, comme chaque année, on va tirer au sort des personnes de la commune qui pourront aller siéger en tant que juré d'assises. Pour la commune, il faut 9 personnes, c'est une personne pour 1300 habitants. Et il faut que la personne ait plus de 23 ans. Donc, dans le cas où on aurait quelqu'un qu'on tirait au sort qui soit né après 1994, il faudra en retirer un autre, vu qu'il faut avoir plus de 23 ans. Non, je me souviens plus. Alors, qui veut une main innocente? Deux mains innocentes. Alors, Jacques, je te laisse la liste. Jocelyne, tu veux bien? Jocelyne Tournès, je peux vous féliciter, on fait un suivant. Ouais, merci.
La page d'abord.
Alors, il faut tirer la page. Donc page 4.
Non. C'est plutôt le contraire. C'est la page. C'est
le numéro de la page.
Alors, page 278, quatrième.
Je le dis, non, mais tu vas dire non, après c'est bien.
Le 178, 1, 2, 3, 4, 7, il s'agit de Troy Robert.
Aîné.
Aîné en 1931.
Ça devrait aller.
Il s'agit de Bocquier Virginie, qui est née en 1977.
Oui, une autre, attends. 257.
2. Le 2, m'avez-vous dit?
Oui.
Schneider Eliane, épouse de Couget, qui est née en 1956. Schneider Eliane.
272.
Le 10.
Thuilan Joël, né en 1938. Thuilan, T-H-U-I. Ah, pardon. Non, il faut tirer un autre parce qu'il est décédé le 10 janvier.
Alors, page 23.
Et le 5.
Beck Lucienne, épouse Arcillet, né en 1939.
De 66, page.
Et le 8.
Né en 1992, Chaumont-Pierre. D'accord.
92.
Le premier.
Le premier. Monsieur De Masure Jean-Luc, né en 1964.
Le deux.
Je dis de Larieux Aurélie, née en 1984. Il s'agit de Gilles Stéphane, né en 1975.
Et le
dernier,
88. Et le 9. Déjean Joseph, né en 1950.
C'est fini. Merci beaucoup. Très bien, maintenant on va passer au point numéro 3 concernant la détermination du nombre de postes d'adjoints après démission d'Aurélie. Donc en fait on avait déjà délibéré sur ce sujet, sauf que le sous-préfet nous a répondu que maintenant. Et en fait il faut attendre la réponse du sous-préfet qui dit j'accepte, donc c'est que de la forme. J'accepte la démission, donc maintenant vous pouvez diminuer ou pas le nombre de postes d'adjoints. Sachant que sur la commune de Rieux, on a le droit à 6 adjoints, et donc avec la démission d'Aurélie, on souhaite ne pas remettre un poste d'adjoint au niveau des écoles, vu qu'on a le CIVOM et qu'on a des délégués au CIVOM. Après un fonctionnement de 2 ans, je pense que les élus du CIVOM font tout office, sont très impliqués, et voilà, se substituent un adjoint. Donc il faut redélibérer sur ce point pour passer donc de 5 à 4 adjoints. Je vous propose de passer au vote. Contre. Abstention. Approuvé, je vous remercie. Et je tiens à remercier Aurélie qui reste impliquée malgré d'autres engagements par ailleurs et qui a quand même souhaité rester avec nous et travailler avec nous. Modification de la représentation au sein du CIVOM. Nous avons 7 délégués au sein du CIVOM. Je souhaiterais savoir, donc, ce serait pour remplacer justement Aurélie Perry dans ce poste. Est-ce qu'il y a des candidatures? Il y a 2 candidatures. Est-ce qu'on peut faire un vote à main levée ou est-ce que vous souhaitez un scrutin? Soit il faut une urne, soit. Voilà.
Moi, je préférerais le scrutin secret.
Aucun problème.
Pour un poste à pourvoir. Merci beaucoup. On a couché de l'eau, quoi.
La représentation au civum de la Bure, c'est au plus fort reste, est la proportionnelle. Est-ce que c'est le cas dans ce vote-là, aujourd'hui? Parce que le plus fort reste, forcément... le plus fort reste, c'est la représentation proportionnelle. C'est la loi qui le dit.
Non, là on a un seul poste qui est vacant, donc on revote à fonction des candidats.
Et donc, on ne respecte pas la représentation proportionnelle, le plus fort reste.
Dans ce cas-là, il faut une élection de liste.
C'est-à-dire remettre les mêmes listes.
Il faudrait refaire une liste, mais ça ne remet pas en question les autres mandats.
Ah non, non.
La liste n'est pas démissionnaire.
Oui, oui. Oui, c'est-à-dire le dernier, il y en a un qui s'ajoute sur la liste, sur la première liste, et l'autre se présente sur la
Non, parce que ça veut dire qu'on remettra en balance les mandats qui sont déjà donnés.
Non, ça en remettra.
Ah si. Bah si, parce que si c'était une autre liste qui était élue. Ça veut dire que des gens qui étaient représentants jusqu'à maintenant,
mais non,
leur mandat sera en balance. Et si,
ça ne peut pas être une autre liste qui est élue, puisqu'il n'y a qu'un candidat sur l'autre liste.
Non, on doit procéder comme ça.
C'est la loi qui le dit, c'est ça? Je sais pas, moi, je vous pose une question.
C'est comme ça, en tout cas, qu'on m'a dit qu'il fallait procéder. Donc c'est comme ça que je procède.
En train d'apporter une réponse.
Mais on m'a dit qu'il fallait procéder comme ça. Je ne suis pas le législateur en question, donc ce n'est pas la loi, moi j'ai pas vu le texte en l'état, mais on m'a dit qu'il fallait procéder comme ça, donc on le fait en l'état. Après, si ce n'était pas le cas, vous me soumettrez si jamais. Donc je vous propose de passer au vote. Donc on peut se lever, vous voulez que vous appelle, chacun se lève, on met à voter et on compte le bulletin.
On vote pour deux.
Oui, bien sûr. Et chacun vote pour la procuration celui-là. Monsieur Bertin. Madame Montoya, Monsieur Estournès, Madame Maury et après vous Monsieur Solana, Aurélie Perry. Monsieur Soum et Michel Martin.
C'est ça.
Valérie Lacan, François Lejeune, Michel Ballon, Pascal Orazio, Maïlis Rouleau, Madame Mallet et Louise Gaston. Alain Le Puissant et moi-même et Thierry Chantron. Ok. Tout le monde a voté. Ah oui, ok. Il me faut donc deux scrutateurs, donc l'un de vous, Monsieur Estournès et Jocelyne. Je vous laisse les annoncer.
Christine Monteau, René Soum René, Soum, René Soum, René Soum, René Soum, Monteau. Monsieur Sou. René Sou. René Sou. René Sou. René Sou. Soum. Soum.
Monsieur Mio.
Soum. Manteau. René Sou.
Donc, monsieur
je reviens sur ma question auprès de monsieur Jailly par rapport à cette élection qui est une élection au plus fort reste, étant donné qu'il n'y a qu'une voix, qu'un poste, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, j'aimerais que.
Donc, vous avez apporté ma réponse.
Voilà, oui, et vous avez le code. Vous avez le code.
Non, pas sur les deux. Je vous propose de passer. Donc, M. Soum sera représentant avec les autres élus du CIBA. Je vous félicite. Point suivant. Avis sur le nouveau schéma départemental de coopération intercommunale. Donc, juste pour vous remémorer, le préfet nous avait proposé une fusion donc, de notre intercommunalité, la communauté de communes du Savès, avec celle la communauté de communes rurale des Coteaux du Savès et de l'Aussonnel. Donc, en tout, on était 24 communes qui fusionnaient pour 18 976 habitants. Sachant juste pour vous rappeler qu'aujourd'hui, notre intercommunalité fait 15 000 habitants, donc, enfin 16 000 habitants exactement, donc on est au-dessus du seuil des 15 000 qui nous oblige normalement à fusionner. Parce que l'objectif de cette loi, c'est de permettre d'avoir des intercommunalités suffisamment grosses et donc ils ont mis un seuil à 15 000. Donc on n'était pas.
Pardon ? Ils n'obligent pas. Au-delà de 15 000, non, vous avez des contraintes qui nous obligent à fusionner.
Ah, excusez-moi, oui, c'est justement tout. Donc, je ne suis pas l'exprimer, c'est au-delà de, en dessous de 15 000, on est obligé de fusionner pour faire 15 000. Aujourd'hui, on est à 16 000, donc on ne devrait pas être obligé de fusionner. Pour autant, le préfet nous avait proposé donc, de fusionner avec la petite intercommunalité de 4 000 habitants environ, qui regroupe le Sonnet, qui regroupe Bourgogne sur le Sonnet, Braguérac, Saint-Thomas, Séguède et Sabonnère. Et de venir avec nous, ce qui pouvait avoir une certaine cohérence au niveau du territoire. Donc on avait voté à l'époque pour, vu qu'ils nous avaient demandé notre avis. Sauf qu'il y a eu une réunion des élus au niveau des intercommunalités et certains ont milité pour qu'on ne fusionne pas avec eux, mais qu'on fusionne avec deux intercommunalités, le Fousseret et Cazères. C'est passé à une voix, cette proposition, il faut le savoir. Notre président d'intercommunalité, le maire du Lerm, a milité contre cette fusion. Sauf que comme c'est passé à une voix, aujourd'hui on nous demande de nous prononcer sur cet avis et c'est ce qui va s'appliquer. Donc ça s'appliquera si et seulement si l'ensemble des communes concernées, la moitié des communes concernées qui représentent la moitié de la population, votent pour cette fusion. Sachant qu'on a déjà eu une présentation à la communauté de communes des impacts que cette fusion va avoir. Jusqu'à maintenant, on a été plusieurs élus de la commune, Alain mais encore d'autres, Madame Mallet aussi, à dire notre inquiétude sur les conséquences de cette fusion. Parce que forcément, on va devoir harmoniser la fiscalité, que les délibérations qui ont été prises pour motiver le fait qu'ils demandent à fusionner avec nous, vu que ce n'était pas prévu par les services de l'État, ont été, je vous incite à aller les voir sur Internet, les délibérations nous disant il faut aller fusionner avec la communauté de communes du Savès, la nôtre, donc ça c'était le Fousseret et Cazères qui disaient ça, afin que l'impact financier à supporter pour le Fousseret ne soit pas trop important. C'est-à-dire qu'on répartisse la charge de l'harmonisation qu'ils vont devoir subir à cause de Cazères, qui a une fiscalité plus élevée que la nôtre. Donc aujourd'hui, dans la projection qu'on a eue, qui n'est qu'une projection, une étude, donc pour le moment on nous a demandé de ne pas la communiquer et de ne pas la diffuser vu qu'elle doit aller plus en profondeur, ça nous ferait une augmentation d'à peu près 10 points de toutes les taxes au niveau fiscalité, j'arrondis à peu près, sauf la taxe d'ordures ménagères, où on est à peu près sur la bonne ligne. Donc je vous y mets. Étalé bien sûr sur 6 ans, voire 12 ans, voilà. Mais pour autant, sachant que c'est une première projection, ça veut dire qu'en l'état, il faut espérer que derrière, il n'y ait pas d'augmentation de fiscalité en plus qui l'accompagne. Donc juste pour donner un exemple, pour les taxes pour les fonciers non bâtis, donc qui va toucher directement les agriculteurs, on passe de 3 et quelques à 14%. Voilà, et c'est ça pour les autres taxes. Donc le message que je voudrais passer, c'est pas qu'on est contre travailler avec les élus du Fousseret ou de Cazères, mais qu'on, moi en tout cas, je suis sceptique sur la façon dont ça nous est imposé. C'est-à-dire que c'est même pas les services de l'État qui nous l'imposent, ce sont des élus qui nous l'imposent, et c'est surtout, à la limite, c'est un manque de préparation. Derrière, on n'a pas eu des études vraiment montrant l'intérêt qu'on pouvait aller ensemble et le fait aussi d'arriver à amortir les augmentations de fiscalité qu'on va connaître. Donc je tenais à donner mon avis, c'est pour ça que moi je voterai contre cette fusion, non pas contre le fait de travailler avec les personnes qu'on nous propose, mais contre le fait qu'il y ait une impréparation et qu'en tant qu'élu, ben, on ne m'a pas élu pour aller fusionner avec une autre intercommunalité et pour augmenter la fiscalité de façon aussi importante, alors que je ne maîtrise même pas cette augmentation et qu'on ne me dit même pas combien cette fiscalité va augmenter. Voilà, donc je tenais à dire ma position.
Je voudrais rappeler qu'en 2010, du temps où M. Sarkozy pilotait la France, la loi NOTRe prévoyait que toutes les intercommunalités devaient dépasser 20 000 habitants. Donc ça, à ce moment-là, on s'est retrouvé avec Lossonnel et avec les autres communautés, avec la communauté de communes de Lossonnel. Ils ont dit non, ils avaient déjà dit non. Donc de toute façon, on est à 15 000, on est à 16 000 et on est là. Voilà, donc il aurait fallu être au-dessus de 20 000. Non. Au-dessus de 20 000, on ne passe pas avec Lossonnel, c'est tout.
Si on était
resté, je parle du passé. Mais...
Il ne me semblait pas avoir fait de politique dans ce que je me suis exprimée. J'ai juste dit un avis sur ce qu'on nous proposait aujourd'hui. Je n'ai pas cité M. Hollande, ni gouvernement droite ou gauche.
C'est, de toute façon, voilà. Bon, l'État, les services de l'État, c'est M. Hollande aujourd'hui, c'était M. Sarkozy en 2010, au début de la loi NOTRe, qui prévoyait plus de 20 000 habitants par intercommunalité. C'est tout ce que j'ai à dire, je ne fais pas de commentaires.
Quelqu'un d'autre veut s'exprimer ?
Oui. Bon, pour un peu plus de précision, hier soir, nous avons été présentés donc à l'ensemble des délégués des trois communautés de communes les études financières qui ont été faites pour cette fusion à la demande de la communauté de communes de Cazères. Donc, moi personnellement, je rappellerai simplement une chose, c'est qu'autour de cette table, on a déjà eu un vote concernant cette fusion. Nous avons refusé à l'unanimité cette fusion. Je me vois mal aujourd'hui, compte tenu des éléments que nous avons et qui nous sont donnés, nous, en tant que délégués de la communauté de communes, qui n'ont rien de nouveau, n'apportent rien, n'apportent que des incertitudes. Je me vois mal changer d'opinion, tout simplement. Donc, moi aussi, je voterai contre.
Excusez-moi. Je voudrais rappeler que je n'ai pas voté contre, que nous n'avons pas voté contre à l'unanimité. J'ai refusé de voter parce que ce n'était pas à l'ordre du jour. C'est pas pareil.
Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole ? Donc je vous propose de passer au vote. Donc qui est pour cette fusion proposée ? 4 personnes. Qui s'abstient ? Le conseil municipal est contre à la majorité. Je vous propose de passer au point suivant. Modification des statuts du syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touche. Il y a une modification de l'article 2B, dont vous avez, je ne sais pas si je le lis. Dans le cadre des compétences liées à l'assainissement, le syndicat pourra exercer les prestations de services suivantes pour les communes membres et pour les EPCI ou établissements publics comprenant des communes membres parmi les adhérents. Facturation unique.
Je vais finir celui-là.
Ah oui, j'ai sauté, mais je vais finir celui-là et on reviendra sur le précédent. Facturation unique sur le territoire de ces communes, membres de ces structures et du ciel. Facturation et recouvrement en matière d'assainissement collectif. Donc il faut passer ça au vote. Donc qui est contre cette modification de statut, qui s'abstient, approuvé, je vous remercie. Et désolé, j'ai sauté un point. Concernant la dissolution du syndicat intercommunal pour les transports des personnes âgées en Haute-Garonne. Donc, c'est dans le cadre de la loi NOTRe. Donc le préfet nous informe par courrier de son intention de dissoudre le syndicat des transports des personnes âgées, SILPA, auquel nous adhérons. Et donc il faut émettre un avis sur l'intention du préfet. Donc qui est contre cette suppression? Qui s'abstient? Approuvé, je vous remercie. Donc nous passons au point suivant, concernant l'ex-foyer logement Les Lauriers et l'acte juridique avec la SA HLM et Chalet et l'avenant à la délibération que nous avons pris précédemment. Donc. Après plusieurs échanges avec les chalets, ils nous réclamaient de l'argent en fait suite à la rupture du bail emphytéotique. Parce que comme ils avaient une exploitation du foyer logement et que celui-ci a été fermé, ils demandaient après fermeture qu'on leur rembourse une certaine partie qu'ils auraient pu percevoir avec l'exploitation. Tout en nous aussi voulant que le foyer logement puisse réouvrir. Alors, le foyer logement ne pourra pas réouvrir en l'état, mais on a réussi à aboutir à des négociations. Déjà, on a fait réévaluer le bien en question qui concerne toute la partie foyer logement en dehors de l'ancienne école. Donc ça a été évalué par les domaines à 40 000 euros. Alors je vous rappelle qu'il y a moins de 5 ans, je crois, il avait été évalué à 9 000 euros. Donc ça, c'est encore les secrets des domaines. Donc il a été évalué à 40 000 euros et donc il a fallu voir et négocier entre l'effacement de la dette due par rapport à la rupture du bail emphytéotique et la cession de la partie foyer logement, enfin, ancien foyer logement. Donc nous avons réussi à trouver un accord et donc pour 58 675 euros. Donc, en gros, les chalets acceptent de rayer la dette que leur doit la commune. Et en contrepartie, nous acceptons de leur céder pour la même somme, pour près de 60 000 euros, le local. Sachant qu'ils étaient, c'est possible qu'ils puissent nous attaquer si jamais on contestait la somme qu'on leur devait par rapport à la rupture du bail emphytéotique, par rapport au calcul des mois qui n'avaient pas été exploités. Donc ça s'est fait, on a rencontré le président du conseil départemental qui, derrière, et un des administrateurs, je ne sais pas si on peut appeler, pas administrateur, en tout cas derrière les chalets, qui a donné aussi son accord sur le projet, sachant qu'on a mis une condition, que le lieu soit réservé aux seniors. Donc ça a été acté par les chalets. Donc on aurait un projet qui serait proposé de 11 logements, donc indépendants, avec cuisine, avec refait, pour uniquement des seniors. Donc, c'est ce que je vous propose de soumettre au vote.
Je voudrais dire que l'estimation des domaines de 2013, c'était juste le prix du terrain, ce n'était pas le prix du bâtiment. Qu'on était sur un accord cadre qui fixait le cadre et que la société des chalets devait solliciter les domaines pour faire le calcul de ce qui restait sur le bail amphithéotique, ce qui restait à devoir, des provisions, je me rends ces réparations qu'on avait versées, etc. Donc on n'est pas du tout dans le même cadre qu'en 2013. En 2013, le travail n'était pas terminé. On était juste sur un accord cadre et on avançait voilà. Et il était obligatoire d'avoir une estimation des domaines sur le bail amphithéotique. Comme on a eu une estimation des domaines sur le bail amphithéotique quand on a signé pour l'EHPAD. Et là, c'est pour la résiliation du bail amphithéotique. Ensuite, ainsi que je vous l'ai écrit, Madame le maire, l'estimation des domaines, elle ne porte pas sur la réalité des pièces qui sont dans le bâtiment. Je suis désolée, il n'y a pas 17 chambres, il y en a 20. Il y a des dépendances. Et puis, on n'a pas eu de plan qui dit on garde ça, on laisse ça. Et en même temps, on n'a pas. Vous ne nous avez pas sollicité comme vous l'avez fait pour Cité Jardin. Vous ne nous avez pas sollicité comme vous l'avez fait pour Cité Jardin pour signer un plan de bornage, puisque nous n'avons pas. Il n'y a pas de plan de bornage. On n'a pas de schéma, on n'a pas de parcellaire. Voilà, donc je ne sais pas. On est au même point qu'au mois de janvier, sauf que c'est passé de 28 000 à 58 000, c'est tout. Voilà. 58 000, c'est ce qu'on savait déjà. Voilà.
De toute façon, vous avez posé toutes ces questions par mail, on vous a répondu.
Vous m'avez répondu quoi, Madame le maire ? Vous m'avez répondu quoi ?
Ah, on vous a répondu, Madame le maire.
Qu'est-ce que vous m'avez répondu ?
Alors, je ne vais pas reprendre en détail tout ce que vous avez dit, pas besoin d'estimation des domaines pour le bail emphytéotique. Et on vous a répondu après, on vous a transmis tous les documents que vous avez demandé. Concernant le bornage, il est en cours. Et là, je ne vous demande pas par rapport au bornage, je vous demande par rapport à une autorisation.
Oui, mais non, mais c'est pas le fait. Le fait, c'est pas tout à fait la même chose. C'était pas tout à fait la même chose. Ce qu'on avait conclu avec les chalets, c'est-à-dire de transformer en résidence senior la partie foyer logement, correspondait à une démarche qui exigeait des procédures particulières. Et ces procédures particulières,
je peux répondre à toutes vos questions. C'était un sujet qui moi, en tout cas, me tenait à cœur, et je sais, à l'ensemble de l'équipe municipale. Il était important d'arriver à renouer avec les chalets et avec le conseil départemental et d'arriver à faire que ces logements restent pour les seniors.
Madame le maire, personne n'était fâché avec les chalets et personne n'était fâché avec le conseil départemental quand vous êtes arrivé. Hein, on était justement dans l'accord cadre. Et c'est la même chose que vous renouvelez aujourd'hui. Alors arrêtez de dire les choses qui ne sont pas. Voilà, qui ne sont pas la vérité.
Je n'ai pas dit que vous étiez fâché, je dis qu'il fallait renouer. Je propose de passer au vote.
Quand il faut renouer,
contre,
en principe,
abstention.
Contre, oui, contre.
4, abstention, approuvé, je vous remercie. Et donc les travaux devraient avoir lieu au dernier trimestre 2016. Commencer, il devrait durer un an, donc j'espère fin 2017, début 2018, on pourra reloger à nouveau des seniors dans le foyer logement. Concernant donc le point suivant, révision.
Juste un petit commentaire, ça ne sera pas un foyer logement.
Non, oui, c'est un abus de langage. Oui. Mais j'ai dit qu'il y aurait des logements indépendants. Et j'ai dit à un moment que ce ne serait pas un foyer logement.
En même temps, dire qu'une résidence senior doit être consacrée à des seniors, excusez-moi, mais si c'est une clause, il nous semblait que depuis le début, une résidence senior, c'était pour des seniors. Hein. On n'avait pas compris que c'était pour quelqu'un d'autre.
Alors, lors des négociations qu'on a pu avoir les chalets, il a été émis l'hypothèse d'en faire autre chose que pour des seniors, et visiblement, dans les débats qu'il y avait eu précédemment avant nous, c'était la question.
Il n'y avait pas de question là-dessus. Je vous invite à relire les délibérations de la commune du mois de juillet 2013.
Donc, la révision du bail emphytéotique avec la société était pas claire.
Donc, là, un petit rappel, si vous voulez, simplement sur la société TEPACA, qui a été créée en 2001. C'est un espace de loisirs donc, qui est situé route du Languedon. Il accueille à l'heure actuelle plus de 35 000 visiteurs chaque année et emploie 22 salariés, ce qui n'est quand même pas une petite chose pour notre secteur. Le premier bail emphytéotique a été conclu avec la commune de Rium le 12 mai 2001 pour une durée de 30 ans et un loyer mensuel de 62 euros. La société TEPACA, qui est en pleine expansion, envisage des investissements très lourds, notamment de plus de 500 000 euros. Et pour obtenir des prêts des établissements bancaires, les accords de prêt éventuels a besoin d'une reprise, si vous voulez, et d'une mise à jour de ce bail emphytéotique. Donc, les négociations ont été entamées avec M. Pérez, qui est le gérant de l'entreprise. Nous sommes arrivés à une entente sur une durée de contrat de bail de 40 ans, avec un loyer mensuel de 155 euros. Et ce qui est très important, qui est révisable annuellement suivant l'indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation, alors que jusqu'à présent, on était basé sur les indices forestiers. Voilà. Donc, tout simplement, toutes ces tractations se sont faites avec l'aide et l'assistance de Maître Cartat. Et donc, nous vous demandons d'approuver la révision du bail emphytéotique et d'autoriser Madame le maire à signer l'acte notarié à intervenir.
Donc, comme vous le voyez, c'est un loyer qui est symbolique, mais c'est une volonté, comme nos prédécesseurs, de permettre l'activité économique et l'attractivité du territoire. Il y a quand même à peu près 35 000 à 40 000 personnes visiteurs par an qui viennent pour TEPACA. Et c'est vrai que là, l'investissement qu'ils font sur le terrain est quand même assez conséquent, donc ils prévoient d'investir quand même 500 000 euros sur une période de 3 ans, justement, pour modifier, améliorer le système de jeu. Donc c'est une façon d'accompagner
cette activité économique.
Oui, ça se justifie pleinement. ça se justifie pleinement. Simplement, je voudrais que M. Lécussant me dise quelle est la différence entre l'indice du coût de la construction et celui de du code forestier.
La revalorisation, si vous voulez, est nettement supérieure à l'indice de la construction. Alors, on a pu se permettre cette transposition, si vous voulez, uniquement par le fait qui a été reconnu, donc qui sera reconnu dans le futur bail, d'existence de construction. Parce que effectivement, M. Pérez a beaucoup étoffé toutes les constructions et tous les bâtiments qu'il a mis en place. Vous savez que la commission de sécurité nous avait obligés relativement récemment, c'est-à-dire l'année dernière, à revoir toutes les installations, tipis, enfin, etc., c'est-à-dire toute l'extension ouest. Et donc, on nous a demandé aussi de prendre en compte ces constructions-là.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Voilà, tout simplement.
Et après, il fallait renégocier justement, prolonger ce bail du fait qu'il y ait de nouveaux investissements. Et donc, la banque a demandé un bail plus long pour pouvoir garantir les investissements. Donc, je propose de passer au vote. Contre, abstention, approuvé, je vous remercie. On va passer au point suivant concernant l'ONF, demande de distraction du régime forestier pour la parcelle section B, numéro 417. Je passe la parole à Jacques.
Bonsoir. La forêt d'Orgage est étendue sur 381 hectares, avec des espèces très variées, mais il y a quelques années, en 2001 notamment, la commune d'Orgage a acquis 153 hectares de forêt situées sur le territoire de la commune de La Hague. Vous avez connu les événements de la tempête de Klaus. Mais là, aujourd'hui, il s'agit d'une petite parcelle communale qui se trouve sur le territoire de la commune de La Hache pour une superficie de 22 hectares. Donc vous voyez que ce n'est pas très très grand. Et bon, par les hasards des découpages, elle se trouve de l'autre côté de la route. Elle est donc complètement séparée du massif forestier. Et elle est cultivée par l'agriculteur qui a le reste d'une grande parcelle à côté. Donc c'est cette petite pointe qui se trouve sur de l'autre côté de la route. La route, c'est ce qu'on appelle l'allée de la Hache. Et ça se trouve à hauteur de la route blanche, à hauteur de la route montagne. Je ne sais pas si vous voyez où ça se situe. Donc l'Office national des forêts demande qu'ils ne reviennent pas à l'état boisé de cette parcelle par voie de distraction. Donc aujourd'hui, il s'agit de distraire la surface forestière de la commune, de la commune. Elle reste donc sur le territoire de la commune de La Hache, bien sûr. Et il est donc proposé d'approuver la distraction du régime forestier de la parcelle 417, section B, lieu dit forêt de La Hache, pour sortir du régime forestier situé sur la commune de La Hache, relevant du régime forestier pour une surface de 0 hectare, 22 hectares, 40 centièmes. Parcelle forestière 337 C. De demander à l'ONF de procéder aux démarches nécessaires à la distraction parcellaire, d'autoriser Madame le maire à signer tout document se rapportant à cette affaire.
Dans la lettre de l'ONF que vous m'avez communiquée, je vous remercie, il est écrit que ce monsieur, bon, je ne citerai pas le nom, cultive depuis de longues années cette parcelle. C'est un agriculteur.
Oui.
Donc quand il fait ses déclarations à la PAC, il ne s'aperçoit pas qu'il y a une parcelle à côté qui ne lui appartient pas. Il la cultive quand même. Non, je pose la question. C'est juste une question de déontologie. Hein,
voilà. Non, mais tout à fait.
Donc il est question de revendre la parcelle à cet agriculteur, c'est ça ?
De la céder.
De céder, voilà, de la revente.
Ça va être un prix.
Donc moi, je me pose la question, on est classé SNIEF, là, dans ce bois de La Hache, quelles que soient les espèces qui sont, hein. Et en plus, nous sommes sur la commune de La Hache. Est-ce que c'est au maire de Riem de prendre la décision?
Oui, la forêt nous appartient.
Oui,
le cadastre, c'est le cadastre de la commune de La Hache. C'est pas la forêt.
Bien sûr. Non, mais ce ne sont que les références cadastrales qu'on indique, madame. C'est pas la propriété, reste la nôtre.
C'est celle de la commune d'Orient.
Voilà.
Oui,
donc,
mais
la
le classement en SNIEF, c'est l'État. C'est le préfet et c'est l'État. vous retirez une parcelle en disant elle est agricole.
Voilà. Alors, le problème, c'est que la parcelle, elle est de fait agricole depuis des années.
Non, mais bon,
donc
ça,
on ne change pas.
Elle n'est pas agricole, la parcelle.
On la retire du régime forestier.
Non, non.
Elle est exploitée en tant que parcelle agricole, en tant que parcelle forestière, mais par un agriculteur, de fait, depuis des années.
On ne peut pas dire qu'elle est agricole parce qu'elle est exploitée par un agriculteur. Elle est SNIEF, elle est classée de forêt de l'âge et SNIEF. La commune de Riam est propriétaire d'une forêt dans une commune voisine. Mais le cadastre, c'est quand même la commune de l'âge. Est-ce que vous avez posé la question à monsieur le maire de l'âge?
C'est le propriétaire qui demande la distraction, c'est-à-dire le changement de régime sur la parcelle. C'est le propriétaire de la parcelle. Ce n'est pas la commune de l'âge qui demande une distraction. On non, est bien d'accord.
C'est pas ça, monsieur Lécussin, je suis en train de dire. Je crois qu'on ne se comprend pas.
Mais je crois
le cadastre.
Non, madame, je crois que vous confondez cadastre et PLU. Le cadastre, ça représente une réalité. Donc, ce n'est pas la mairie qui décide le cadastre.
Pas du tout.
Non.
Ça représente ce qui est de la réalité. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans la réalité, cette parcelle est exploitée par un agriculteur. On estime que, vu la taille de la parcelle, qu'on ne va pas la transformer en parcelle forestière de fait. Donc, on l'enlève de...
La parcelle B417 s'appelle forêt de l'âge. Elle apparaît sur le cadastre de la commune de l'âge.
Oui, oui.
Et elle appartient à la commune de Riem. Est-ce que monsieur le maire de l'âge a été consulté sur cette délibération? Voilà, c'est tout ce que je demande. Voilà.
On ne le consulte pas. On
n'a pas à le consulter.
Donc, on a, voilà, en effet, donc, votre question, donc, je vais répondre.
Comme,
on
tout, propriétaire, non, mais comme tout propriétaire de terre, vous n'avez pas.
On n'a pas consulté le maire de l'âge.
Théoriquement, vous deviez le consulter parce qu'il est effectivement la mairie de Riom est propriétaire du terrain, elle a le droit de le céder, mais elle n'a pas le droit de le déclasser. Et le seul déclassement doit être fait par la mairie de l'âge et non
mais,
et par l'État.
Monsieur, on ne déclasse pas la parcelle, on déclasse l'usage qui en est fait. C'est pas la même chose, c'est-à-dire la culture qui est dessus. À l'heure actuelle, cette parcelle...
On y reviendra.
On y reviendra. Monsieur Lécussin, voilà. Alors vous
oui,
voulez
oui, on
dire,
y reviendra.
Vous voulez dire qu'on va exploiter une parcelle de forêt comme intérêt agricole? C'est ça que vous voulez nous dire? C'est comme celui qui va construire une maison sur le domaine public.
Ce qu'on dit, c'est qu'en tant que propriétaire, on ne va pas faire, on va pas exploiter une forêt dessus.
Voilà.
C'est la seule chose qui est dit.
Oui, mais vous voulez la vendre. C'est écrit quand même dans le document
de
l'OMS.
Parce qu'on vous en attend pour qu'il puisse
le faire. Voilà, donc c'est pas le problème.
Non, c'est pas un problème.
On veut régulariser une
chose. Je sais pas, mais bon, je sais pas.
Bon, je vous propose de passer au vote. Contre.
Contre.
4. Abstention. Approuvé, je vous remercie. Modification du contrat de bail pour la mise à disposition dans le cas de Sivom de la Bure. Donc, comme certains ont pu le constater, avant le SIVOM avait ses bureaux qui étaient sous l'hôtel du Midi. Ça permettait en tout cas d'avoir des bureaux au centre du village. Pour autant, c'était quand même très fermé, avec une absence de lumière. Et lorsque les bureaux de l'ADMR se sont libérés à côté de la maison du percepteur, on a regardé avec le SIVOM pour voir si les services administratifs SIVOM pouvaient aller dans ces bureaux. Et donc, en fait, la proposition qu'on vous fait, c'est modifier le bail pour permettre au bureau du SIVOM d'aller dans ces bureaux de l'ADMR, sachant qu'ils n'occupent pas tous. Voilà. Donc, c'était juste un changement d'adresse dans le bail. Donc, je vous propose de passer au vote. Contre. Abstention. Approuvé, je vous remercie. Point suivant, décision modificative concernant le budget communal sur opération d'investissement. Je vais laisser la parole à Jacques.
La décision modificative relève de la compétence du Conseil municipal, prévoit et autorise les nouvelles dépenses et recettes, modifie les prévisions budgétaires initiales tout en respectant l'équilibre du budget. Donc, il convient de prendre une décision modificative afin d'augmenter les crédits de certaines opérations d'investissement du budget M14. Cette modification n'a aucune incidence sur l'équilibre des sections. Dans ce cas-là, il convient donc de prendre dans les dépenses imprévues pour permettre ces opérations d'investissement. Il est donc proposé d'inscrire des écritures d'ajustement à la section d'investissement et d'autoriser la décision modificative suivante au budget de la commune. Donc, on diminue pour le chapitre 22 les dépenses imprévues de fonctionnement pour un montant de 70 000 euros. Et on augmente pour le chapitre 21 une opération d'élagage, opération 74 pour 5 000 euros. Acquisition de matériel, opération 39 pour 20 000 euros. Donc immobilisation corporelle pour 25 000 euros. Chapitre 23, une opération sur l'église, la phase 1, opération 39 pour 35 000 euros. Et gymnase, opération 69 pour 10 000 euros. Donc une immobilisation en cours pour 45 000 euros. Donc au total, immobilisation corporelle 27 000 et immobilisation en cours 45 000, un total de 70 000. 70 000 euros pour un retire des dépenses imprévues pour abonder dans les crédits d'opérations d'investissement. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 1 au budget communal de l'exercice 2016 conformément à l'exposé présenté.
Oui. Je comprends pas.
Je ne comprends pas de te dire pourquoi on fait une décision modificative à demande du budget, sachant que toutes ces opérations sont prévues au budget.
Certaines, pas toutes. Il y a eu des opérations, il y a des augmentations de ces opérations. C'est pour ça qu'on complète ce.
Lesquelles on augmente ?
L'élagage est plus important que ce qui avait été prévu. L'acquisition de matériel, Alain pourra nous dire ce que c'est que la nouvelle. Opération de matériel. L'église de la phase 1, donc c'est la partie du bas du clocher. Et le gymnase, ce sont des opérations, je crois, d'étanchéité.
L'élagage, excusez-moi, mais l'élagage dans le DOB était prévu 15 000 euros. Là, on est à 5 000, donc on est en dessous.
Ça veut dire un complément.
Ça veut dire un complément, 5 000 euros.
C'est
une odeur. Ça coûte plus cher.
C'est un plus.
Ça augmente
la dépense.
Il faut augmenter la possibilité de dépenser.
Il n'y avait pas des dépenses imprévues.
Mais pourquoi si, il y a des dépenses imprévues, justement. Ce sont des dépenses imprévues, mais les dépenses imprévues, on n'en a pas le loisir pour en faire ce qu'on veut. Il faut l'affecter. On retire des dépenses imprévues. On l'affecte. Pour les lavages, on n'avait pas prévu suffisamment. Le montant de l'élagage sera supérieur et on demande de passer 5 000 euros.
Pourquoi vous ne prenez pas dans les dépenses imprévues investissement ?
On prend dans les.
Non, vous prenez
dans les oui, c'est une erreur d'écriture, mais effectivement, c'est pas du tout la même chose. De toute façon, on est complètement dans l'investissement. Ce sera corrigé dans le compte rendu, mais effectivement, ce sont des dépenses imprévues d'investissement.
Donc il y a
Le libellé
n'est pas bon.
Il n'y avait que 50 000 euros de dépenses imprévues investissement.
Dans le budget, il n'y avait que 50 000 euros. Et là, vous êtes à 70 000. Et vous êtes sur du fonctionnement.
Non, ce n'est pas sur le fonctionnement. Il y a une erreur d'écriture.
En fonctionnement, il y avait 50 000.
Non, c'est l'inverse.
Non. Non, il y avait 200 000 en fonctionnement et 50 000 en investissement. Dans investissement.
Donc là, vous êtes au-dessus.
Vous dépassez.
Tu veux que je te laisse expliquer ? On y va comme ça. Non, vous avez certainement raison sur ce point. Donc, dans le doute, on le met à 50 000.
Ensuite, je voulais poser une autre question à M. Bertin.
Jacques ?
Oui.
C'est sûr, hein, on avait mis 50 000 en dépenses imprévues d'investissement et pas 70 000. La deuxième chose que je voudrais poser, c'est que quand même on avait budgétisé en 1 million 3 en investissement, et y compris l'excédent du fonctionnement qui avait basculé sur l'investissement de 600 000 euros, enfin, etc. Est-ce qu'on est obligé de prendre une DM maintenant ? Est-ce que tout l'argent a été dépensé ?
Non, tout l'argent n'a pas été dépensé loin de là, mais c'est pour pouvoir justement faire les.
On ne peut pas le faire plus tard ?
Ben, pour fonctionner, il vaut mieux.
On peut le faire jusqu'au 30 décembre.
Pour l'élagage, non. Pour l'achat de certains matériels pour permettre un bon fonctionnement, non plus. Cet achat de matériel, cet investissement se fait dans une volonté justement de pouvoir contenir la masse salariale et répondre aux besoins de la population. Donc, non, c'est des investissements. L'élagage, on ne peut pas retarder.
Madame le maire, l'élagage, c'est une ligne. Est-ce que le chapitre bouge ? Est-ce que c'est le chapitre qui bouge ?
Non, mais c'est, là, ce qu'on vous présente, c'est la globalité.
Okay.
Excusez-moi, monsieur Bertrand.
C'est moi.
À part reporter.
Oui.
Les acquisitions de matériel pour l'opération 39, c'est quoi?
C'est la parole, ça?
Oui, sur l'acquisition de matériel, disons que par rapport aux commandes, le fournisseur nous a conseillé de prendre un certain nombre d'options sur lesquelles nous n'avions. Nous n'étions pas orientés dès le départ. Bon, il y avait des joysticks, il y avait tout un tas d'accessoires, si vous voulez, de commandes de ces matériels. Qui ont été rajoutés et donc voilà.
Mais là, on est sur l'opération 39, c'est l'église, c'est le marché de l'église, dans les joystiques.
Non, moi je vous parle de l'acquisition de matériel.
Mais il y a marqué opération 39. 39, ça correspond aux travaux de l'église.
Hein. Non, oui, il y a peut-être.
Ce que je vous propose, c'est visiblement sur entre le, déjà l'erreur que le manifeste qu'on voit sur investissement fonctionnement, c'est qu'on reporte le point et on le mettra à la.
Oui, parce qu'on n'est pas précis.
Parce que honnêtement, si c'est pour des problèmes de numéros, c'est pas possible de faire voter ça.
Sur les 70 000, on ne peut pas faire.
Donc je propose de passer au point suivant concernant le budget sur l'assainissement et les décisions modificatives. Au point suivant. Ah pardon, excusez-moi, c'est moi qui vais le bon. Ah oui, parce que la fixation des tarifs municipaux, excusez-moi. Donc concernant les tarifs municipaux, pour l'application, donc tarif applicable à l'application de domaine public sur la ville de Riom, les différents chevalets, trottoirs, vide-greniers et autres, rien n'a changé. Donc je vous propose de vous exonérer sur ça et de reconduire les mêmes tarifs qu'on avait précédemment. La seule chose qui a changé, c'est concernant la piscine municipale, avec droit d'entrée journée adulte à partir de 18 ans à 2 euros. Et donc ça, c'était la même chose que l'année dernière. Même chose que l'année dernière, c'était un tarif réduit pour les adolescents de 12 et 18 ans, les retraités, les demandeurs d'emploi, étudiants et personnes handicapées, donc de 1 euro. Ce serait gratuit pour les enfants, donc ça c'est toujours comme l'année dernière, de moins de 12 ans, accompagnateurs de groupe, pompiers, gendarmes de Riom et personnel communal. Et la seule chose qui change, c'est un abonnement avec un carnet de 10 tickets pour tous les publics qui serait à 15 euros. Voilà. Donc c'est la seule chose qui change. Et il y a un autre point qui change, mais qu'on n'a pas mis parce que du coup c'était pas une tarification, c'est concernant la buvette. Donc il a été très difficile, mais je vais peut-être laisser la parole à Valérie. Donc la buvette, on la passe à titre gratuit pour que quelqu'un puisse l'exploiter. Donc laisse la parole à Valérie.
C'est le domaine public, madame la maire. Et quelqu'un va en retirer un bénéfice, c'est pas possible. C'est impossible.
Alors aujourd'hui, on s'est retrouvé en. Alors c'est pas impossible parce que ça se fait pour le vide-grenier, ça se fait pour d'autres.
Non. Là, je pense que vous êtes. Je ne vous êtes pas bien renseigné. Hein.
Très bien. Et donc.
On fera quelque chose de symbolique. On demandera 1 euro symbolique, par exemple, si ça pose un problème. La difficulté, c'était que personne ne souhaitait actuellement prendre la buvette à l'adjudication.
Alors, qui c'est qui va la prendre à 0 euro? Qui va la prendre?
Alors, je suis revenue solliciter Sun Pizza. Ah oui. Et je lui ai proposé, compte tenu des pertes qu'il avait eues la première année et le peu de travail qu'il a effectué l'année dernière, de venir ouvrir. Il n'a pas répondu de suite. Il a voulu réfléchir et voilà. Et il m'a dit oui au bout de 2 jours.
Oui, alors on peut concevoir qu'effectivement, ce soit cher pour quand on ne travaille pas. Voilà. L'année dernière a été une année pourrie.
Hein. Ça fait 2 ans.
Bon, voilà, ça a été une année pourrie. Les autres années, à 700 et 800 euros, ils s'en sortaient, hein, les autres. Voilà, donc on va dire ça aussi.
Le problème, c'est qu'on n'a personne.
En même temps, c'est le domaine public, Valérie.
Oui, mais voilà. Peu importe.
Et 1 euro, je pense que c'est vraiment symbolique. Je ne sais pas si ça. Je sais pas si c'est possible.
Voilà, de toute façon, la participation qu'on va demander, ce sera à titre symbolique. Parce qu'aujourd'hui, on ne trouve personne pour vouloir prendre la buvette. Et aujourd'hui, ce n'est pas tant que quelqu'un va pouvoir l'exploiter et, comme vous dites, se faire de l'argent. C'est pas du tout cette démarche-là.
Parce qu'on n'en est pas là.
Aujourd'hui, c'est donner un service. La piscine, honnêtement, la participation pour rentrer dans la piscine est vraiment symbolique. C'est un service qu'on donne aux habitants et c'est une volonté de pouvoir permettre à des gens qui n'ont pas les moyens de partir en vacances ou à des jeunes qui restent sur Riom d'avoir une activité. Et la buvette, c'est vraiment un service aussi.
il y a une personne qui prend ce risque-là. On a vraiment cherché, on n'est pas allé voir que Sun Pizza, Valérie a vraiment allé voir beaucoup de personnes qui, après avoir réfléchi, ont préféré ne pas aller sur ce projet.
Oui, alors ça, on le sait très bien, Madame le maire, que c'est un caractère social fort, la piscine municipale, et nous en sommes bien d'accord. Ceci étant, quand on voit le déficit enregistré l'année dernière sur les comptes de la commune par la baisse des participations demandées, des droits d'entrée, et qu'en plus on n'aura pas la participation de celui qui, quand même, est censé faire un bénéfice, sinon c'est pas la peine qu'il vienne. Voilà, à un moment donné, et qu'on entend dire que les travaux de la piscine sont trop chers et qu'on va réduire la voilure parce qu'effectivement on est trop haut, ben je ne sais pas comment on va faire bientôt.
Alors, on n'a jamais attendu après les entrées de la piscine pour pouvoir payer les travaux de la piscine, parce que ça n'a rien à voir.
Heureusement.
La piscine, aujourd'hui, donc, comme je le disais, c'est une volonté de permettre aux gens de pouvoir y accéder. Donc, c'est vrai que la tarification est vraiment symbolique. Aujourd'hui, les travaux de la piscine, on avait budgétisé une enveloppe pour faire ces travaux-là. La personne qui nous a accompagnés, qui est un professionnel, s'est trompée, soit c'est les entreprises qui ont répondu trop haut. Donc, on a préféré retirer ce projet-là pour le moment, pour refaire une consultation après. Mais ça, je pense que tu peux en parler peut-être moi.
Suite à l'appel d'offres qui a été lancée, de toute façon, on s'est retrouvé donc avec une non-réponse sur un des lots, qui était le lot faïence et carrelage, et une réponse dans le lot gros œuvres, qui était le double de l'estimation faite par le bureau d'études. Donc, on a rendu cet appel d'offres.
Pardon. Elle était à combien, l'estimation du bureau d'études?
Elle était à 21 000 euros de travaux de gros œuvres, alors que la réponse est à 42 000 euros, quelque chose comme ça. En sachant que l'entreprise qui a répondu, on a une seule réponse. Par rapport à ça, et c'est vrai que j'ai demandé au bureau d'études de revoir sa copie quant aux solutions préconisées, puisqu'on était complètement hors du budget. Voilà.
Moi, monsieur Lécussin, excusez-moi, mais je vais être un peu désagréable.
Ça ne vous changera pas.
À vous non plus, d'ailleurs. Voilà. Donc c'est un bon procédé, n'est-ce pas? Voilà. Donc je vais dire que depuis qu'on est arrivé, on a toujours des estimations nettement inférieures à la réalité du montant des travaux que nécessitent les opérations qu'on veut mettre en œuvre. Ça a été pour la salle polyvalente, c'est maintenant pour la piscine, ce sera pour la médiathèque, nous en reparlerons. Et j'ai du mal à croire qu'à cette époque où il y a tellement de monde qui demande du travail, qu'on ne trouve personne pour faire des travaux, que les marchés soient infructueux, etc. Alors, il faudrait peut-être changer de bureau d'études ou de maître d'œuvre qui estime les montants des travaux à temps, qu'on affiche à temps, et qui finalement ne peuvent pas se faire parce que on est nettement en dessous de la réalité du marché. Je suis désolée, mais bon, j'étais obligée de le dire.
Ne soyez pas désolée, c'est peut-être ce que nous ferons.
Ah.
Donc,
nous sommes
donc,
d'accord.
Je vous propose de passer au vote.
Donc, nous sommes d'accord.
Oui,
une fois,
nous
sommes d'accord.
Je vous propose de passer au vote. Contre?
Alors, moi, j'étais contre, déjà, l'année dernière, ces tarifs-là. Donc, c'est pour
attention.
Les mêmes...
Attention. Deux abstentions et deux contre. Bon, ainsi, c'est adopté. Concernant le point suivant, approbation du règlement intérieur de la piscine municipale, donc le règlement est inchangé, donc je vous propose de passer au vote.
Elle n'était pas ouverte le matin l'année dernière, la piscine, il est changé le règlement.
Il est sur les horaires d'ouverture.
Oui, donc il est changé. C'est quand même important les horaires d'ouverture dans le règlement de la piscine, Madame Le Maire, n'est-ce pas?
Oui. On passe au vote. Et le règlement de la piscine, c'est ce qui est essentiel, c'est surtout le niveau de la protection et de la sécurité. On passe au vote contre. Abstention. Approuvé, je vous remercie. Concernant le point suivant, je vais passer la parole à KSM.
Il s'agit d'accorder une subvention exceptionnelle à l'association des mises de table.
quand ils ont eu un jeune qui s'est qualifié pour les championnats de France de tennis de table, et les 326 euros correspondent aux frais de déplacement et de logement, sur un total de frais de 746 euros.
C'est des factures acquittées, ça, ou des devis?
Vous, à prévoir.
C'est des estimations de frais.
Oui,
le logement, ça, c'est...
C'est ce qu'on avait eu.
Oui, c'est les mails qu'on a échangés ensemble.
Si M. Champagne devait, on en avait discuté, avait dit qu'on paierait sur...
Sur facture. Oui, ça, après, c'est... Ouais.
Donc, on n'a pas les factures.
Non, on n'a pas de factures.
Mais ils ont acquitté parce que ce n'est pas passé. Donc, on est avant.
Le championnat s'est passé le 6 mai. Donc, c'était.
Ah, ça s'est passé?
Oui, le 6 mai.
Donc, il y a les factures.
Il faudrait qu'ils fournissent les factures.
Oui, il va les fournir. Il va les fournir. Donc, on va voter ce soir.
Les factures nous seront transmises avant qu'on verse la somme. Mais par contre, il faut qu'on ait l'autorisation de le faire. Aujourd'hui, j'étais pas à la commission, mais de ce que j'ai échangé avec M. Chantran, c'est qu'ils ont donné une estimation et qu'on paierait sur la facturation.
La somme paraît tout à fait correcte et raisonnable par rapport au montant.
Ce qui était dit dans la procédure, c'est qu'aujourd'hui, vous nous donnez l'autorisation de pouvoir le faire et que la somme ne sera versée qu'après présentation des factures. Justificatif.
Bon. Voilà. Donc, il faut l'écrire sur la délibération.
Oui, bien sûr.
Que la somme sera versée.
Mais c'est ce qui avait été acté en commission et c'était la procédure qui avait été dite.
D'accord.
Donc, je vous propose de passer au vote. Contre ? Abstention ? Approuvé, je vous remercie. Donc, on a épuré l'ordre du jour. Donc, je vous remercie. Oui.
Il y a pas des questions diverses, madame le maire ?
Si vous avez une,
alors, voilà. Donc, j'ai quelques questions diverses. Au début de la séance, vous avez parlé des contentieux, des affaires contentieuses en cours qui ont été jugées. Et vous avez omis d'informer le conseil municipal que les élus d'opposition ont exercé un recours contre la délibération qui prévoit la révision du PLU et le plan de bornage presbytère.
Oui, un recours gracieux n'est pas une pas contention.
Non, mais c'est on doit informer le conseil municipal.
Non.
Ah si, si, absolument. Ah si, si. Informez-vous.
Et après, vous pouvez le dire, ça ne fait pas gêner du tout.
C'est un recours gracieux. Donc ensuite, par rapport au Sivan de la Bure, est-il exact qu'il y a une fermeture de classe à l'école maternelle?
Oui, tout à fait.
Que fait l'association de parents d'élèves et que font les élus par rapport à ces fermetures de classe? Il y a eu une action, il y a eu quelque chose?
Alors on a eu une forte action parce que la fermeture de classe était menacée déjà l'année passée.
Oui,
on est arrivé. Là on a eu une forte mobilisation et en partenariat avec les enseignants, avec les parents d'élèves, avec les élus. Et la classe a été maintenue. Aujourd'hui, la classe, visiblement, il manque beaucoup trop d'élèves par rapport à obtenir le maintien de classe. Donc il n'est pas décent de pouvoir demander le maintien de classe quand il manque plus d'une dizaine d'élèves, sur une vingtaine d'élèves par classe.
Oui, alors je suis heureuse d'entendre qu'il y a eu une forte mobilisation parce que rien n'a paru, ni sur la dépêche, ni sur le site internet de la commune, ni ailleurs, pour dire que les élus de la commune de Riem, et en particulier les élus qui font partie de la commission des parents d'élèves, ont fait quelque chose d'efficace à ce sujet. Ensuite, dernier.
Tout n'est pas médiatique, madame, quand on travaille.
Ah, écoutez, madame le maire, vu l'importance que vous accordez justement à la communication, vous devriez faire des efforts dans ce sens aussi. Monsieur Lécusson, voilà. Donc, je vous avais demandé, lors du dernier conseil sur le vote du budget, des précisions sur l'assainissement, sur le budget d'assainissement. Et en particulier sur les montants des branchements, des différents branchements, sur les participations aux travaux, quand il y avait etc. Madame le maire m'avait dit que vous alliez me répondre. Donc vous ne m'avez pas répondu. Alors je sollicite encore une réponse. Pas aujourd'hui, mais j'espère que vous me répondrez. En particulier, je voudrais juste pointer quelque chose que je n'ai pas pensé à pointer la dernière fois. Sur le CA 2015 de l'assainissement, il était prévu 85 000 euros de recettes des taxes de la part communale d'assainissement. Et il est rentré 0 euros.
Est-ce qu'il y a eu un souci?
Oui.
Est-ce qu'il y a eu un souci?
Mais on l'a déjà expliqué.
La seule chose, si vous voulez, c'est que je serais très heureux que le SMEA mette ses finances à jour et nous... Pardon.
Oui, c'est bon.
Oui, je serais très heureux, Madame Maury, que le SMEA se mette à jour des dettes qu'il a vis-à-vis de la commune. Alors, on a, pour explication, c'est pas une explication, c'est une information. On a une énorme problématique à l'heure actuelle avec les syndicats mixtes d'assainissement, qui est la suivante. L'ingénieur technicien que vous connaissiez, qui s'appelle M. Gambino, qui oui. s'occupait du secteur et plus particulièrement de Rieuvre, est en arrêt maladie. Donc son remplacement n'a été fait que lors de la dernière commission territoriale qui a eu lieu le mois passé. Son remplacement qui n'est même pas d'ailleurs tout à fait assuré, c'est-à-dire que c'est la personne qui était sous ses ordres qui le remplace provisoirement. Le temps de son retour au poste. Et donc, cette personne est en train de s'informer de la situation qu'a laissée M. Gambino. Donc, on est dans une. Allez, j'oserais pas le dire, mais je vais le dire quand même, dans une galère avec le syndicat mixte. Ça fait déjà trois rendez-vous que nous demandons à la directrice financière pour justement voir. Comment ça se fait qu'en 2015, nous n'avons pas pu percevoir les parts communales qui nous revenaient? Ça se prolonge d'ailleurs cette année.
Excusez-moi, hein, vous avez pu constater, chaque citoyen, chaque contribuable rieuvrois, que depuis 2013, nous n'avons pas de facture du SMA.
Je ne sais pas, je ne fais pas ça.
Non, mais bon, voilà, il n'y a pas de réelle explication, si vous voulez, c'est un état de fait. Alors, le SMA est en train de mettre dans l'ordre.
Même les usagers ne le reçoivent pas.
Oui, mais ne pensons pas qu'ils ne le recevront pas un jour.
Ah, mais ils l'ont reçu. Moi, j'en connais des usagers qui l'ont reçu.
Jusqu'en 2013.
On va pas partir en sécurité. Même là, je vous dirai qui, monsieur Le Pen. Vous pourrez appeler la personne.
Alors, c'est juste une remarque par rapport à ce que nous avons voté tout à l'heure, c'est-à-dire le changement des statuts du syndicat des Côtes-du-Touche. C'est que le SMEA envisage à l'heure actuelle de transférer la facturation assainissement au syndicat des Côtes-du-Touche. Ce n'est pas fait, parce qu'il y a des normes, comme les retards est énorme, si vous voulez, le syndicat des Côtes-du-Touche va hériter d'une situation ambiguë. Donc voilà, nous en sommes là, et ce qui rend nos finances d'ailleurs relativement difficile.
Alors tout s'explique, parce que effectivement c'est un dû. Et alors la deuxième question qui va avec, c'est que pour 2016, on avait budgétisé que 20 000 euros de taxes d'assainissement. C'est normal? C'est parce que vous n'avez rien reçu l'an dernier que vous avez budgétisé 20 000
euros? Tout à fait, oui. Pour la bonne et simple raison, si vous voulez que... Il est impossible à l'heure actuelle de faire le point financier, y compris de ces taxes-là, puisque n'oubliez pas que c'est toujours le SMA qui reste intermédiaire pour ces taxes-là. Donc la même raison, si vous voulez, fait que le retard, c'est pas la peine de budgéter des sommes qu'on a déjà budgétées pour ne pas les encaisser. Quoi. Voilà.
Voilà.
Après, ces chiffres-là sont pas bons.
Et quel est votre moyen à vous de... Parce que bon...
De pression?
Non, pas de pression, de savoir...
Très honnêtement, on a sollicité un rendez-vous avec M. Vincini pour la rentrée, pour justement faire le point avec le président du SMEA, parce que j'ai l'impression qu'on n'y arrive pas. Et à savoir aussi tout simplement que le SMEA, donc je pense qu'il y a un déficit de personnel au SMEA, puisque le SMEA s'est lancé dans du recrutement assez important. Voilà, alors on espère que tout ça va se stabiliser d'ici la rentrée, mais pour le moment, on n'en sait pas grand-chose.
Monsieur Tournès,
les élus de Rieuvre ont reçu un mail de la part du président de la Bouillonnaise concernant des travaux qui doivent être faits au Bouillon, ainsi que sur la salle du pigeonnier. Je voudrais savoir à quelle échéance sont-ils prévus.
C'est pour quel travail?
Alors c'est bien
comme les commissions de travaux ne se réunissent pas.
C'était pas spécialement un sujet à l'ordre de la commission de travaux, ça. Nous avons été un peu mis devant le fait accompli sur la réalisation de certains travaux. Donc j'ai pris un peu les choses en cours de route, puisque il a été fait des transformations, des transformations sont en cours dans la salle où se font les compétitions. Et donc on a déjà dans un premier temps essayé de régulariser et d'orienter un petit peu la mise en place qui devait être faite d'un vestiaire. Ensuite, la demande du club porte sur un doublage éventuel, c'est-à-dire un renforcement de l'isolation thermique sur les parois métalliques. Et à l'heure actuelle, qui se ferait avec une laine de verre et un doublage placo, hein, tout simplement. À l'heure actuelle, c'est tout simplement à l'étude, en sachant que le club nous a fait une espèce de compte rendu des fournitures dont il aurait la nécessité, et qu'on est en train de regarder comment on peut financer ce genre de fournitures. Voilà.
Et je profite qui est présidente de l'association dans le public. Ce sont des pratiques qui sont très limites de la part de l'association. D'avancer et d'imposer des travaux, il y avait deux possibilités de réaction. Soit on fermait le boulodrome, parce qu'une réalisation de travaux comme ça, sans concertation, sans rien, ça peut être extrêmement dangereux. D'ailleurs, du coup, je m'associe à ça, mais Thierry Chantran et Alain Lécuisson sont allés dans le boulodrome avec un professionnel justement pour accompagner, pour éviter qu'il y ait des problèmes après au niveau sécurité, au niveau d'accueil, pour essayer d'accompagner justement ces travaux, pour éviter une fermeture du boulodrome, mais ce ne sont pas une façon de fonctionner qui, en tout cas...
un peu difficile à travailler.
Voilà, qui ne sont pas forcément... Dans une bonne condition.
On aurait dû, si vous voulez, avoir une déclaration de travaux que nous n'avons pas eue, donc il n'y a pas eu, au départ au moins de la concertation. Donc voilà, et on essaie de la faire et d'avancer malgré la situation. Voilà. Donc à l'heure actuelle, ce qui est prévu, c'est le raccordement, c'est-à-dire il y a un petit complément de réseau à faire par rapport aux évacuations d'eau usée. Ça sera fait. On va essayer de le faire cet été, mais sinon plus tard à la rentrée. Et après, on est en train de regarder les sujets dont je vous ai parlé.
Et sur le pigeonnier ?
Et sur le pigeonnier ? Sur le pigeonnier, la situation est beaucoup plus inconfortable, puisqu'on a un problème de conception du bâtiment, c'est-à-dire que vous avez deux toitures qui déversent l'une sur l'autre. Et que le seul moyen qui a été trouvé à l'époque pour évacuer les eaux, c'est une simple gouttière en zinc dont le débit se fait à l'intérieur du bâtiment. Donc là, on a une modification. J'ai consulté les professionnels, bien sûr, et on a une modification de charpente à faire qui est à l'heure actuelle et qui sera chiffrée, je pense, d'ici la rentrée en septembre. Parce qu'il va falloir, faire en sorte, si vous voulez, que ces deux toits, tout simplement, qui communiquent, ne fassent qu'un versant de toiture et s'écoulent à l'extérieur.
J'aimerais savoir en quoi la loi NOTRe nous impose de réviser le PLU. Parce qu'on avait posé la question à M. Lucussa, mais il n'avait pas su nous répondre.
Alors, il y a surtout essentiellement des mises à jour à faire par rapport à cette loi.
Lesquelles ?
Alors, franchement, je ne sais pas.
Non, je ne les avais pas la semaine.
Non, parce qu'elles sont quand même assez importantes. Donc, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. J'essaierai de vous mettre ça par écrit.
Très bien, je vous remercie.
Moi, je n'ai pas tout à fait fini.
Dernière question.
Excusez-moi, madame le maire. On ne se réunit pas souvent.
On échange souvent par mail.
Beaucoup moins ces temps-ci. L'avez-vous remarqué? Je voulais juste dire, par rapport aux travaux qui se font ou qui sont projetés, il n'y a pas de réunion de la commission des travaux.
Il n'y a rien qui est parti. Depuis la dernière commission, on avait parlé de l'église, rien n'est parti. C'est ça, monsieur le président. Et pas de commission, pas de réunion de la commission des finances. Alors, nous, quand on nous donne des documents comme ça en disant il y a des augmentations de temps sur tel chantier ou sur tel projet, etc., on ne comprend rien. Donc, on aimerait avoir une lecture un peu plus.
Je vous répondrai puisque vous m'interpellez. Et j'ai prévu une réunion en septembre pour la rentrée. Donc vous en serez informé.
On est invité qu'en septembre.
Pardon ?
On est invité une fois par an en septembre.
Mais écoutez, vous êtes invité.
Bon, donc c'est la reprise du travail. Et M. Bertin, alors, une réunion de la commission des finances, c'est prévu pour quand ?
Et je pense qu'on la fera aussi à la rentrée. Ouais. Vous avez fort justement remarqué tout à l'heure qu'il y a à peine 2 mois que le budget a été voté. Alors laissons-le se dérouler un petit peu et puis on fera le point.
Mais par rapport à ça, par rapport à ces travaux, donc, par rapport à tout ça, parce que il y a une corrélation entre les deux, les commissions.
On recevrait les délégations, la commission sociale, quand on se réunit aussi ou pas. Alors, je ne vais pas toutes les faire là, et il n'y a pas tous les élus, comme il n'y a pas non plus la commission. Oui, mais je pense pas qu'elle est forcément son planning là, donc on propose de passer à la question.
La commission
La
commission sociale, elle s'est réunie en septembre, vous étiez présente. Pardon. Et on vous a dit que vous pouviez vous inscrire dans des groupes de travail. Nous n'avons toujours pas de réponse de votre part, ni de la vôtre, ni de celle de M. Solana, du reste.
Non, mais attendez, on ne va pas s'inscrire dans les groupes de travail, sachant que la réunion où nous avons été invités, c'était juste une présentation, comme vous nous l'avez dit.
Mais justement,
aucune commission réelle.
On vous présentait la commission, on vous présentait les groupes de travail, on vous demandait de vous y inscrire pour qu'on puisse travailler. Cette commission, je l'ai souhaitée et j'ai souhaité que vous y soyez associés et mes collègues qui sont autour de la table peuvent le dire. Sauf que cette commission, elle a posé beaucoup de problèmes. Il y a y compris des gens qui ne sont pas élus, qui travaillent avec nous, qui travaillent toujours, du reste, et je les remercie d'y être restés. Suite aux polémiques qu'il y a eu après cette commission, on faillit démissionner des groupes de travail.
Quelle polémique ?
Alors, moi, je veux bien que vous veniez travailler dans nos commissions, mais pour avancer, faire que les choses voient le jour et qu'on puisse travailler en bonne intelligence. Alors, il va y en avoir une à la rentrée, Madame le maire vient de vous le dire, oui, il va y en avoir une à la rentrée, il y en a une au mois de septembre. Une commission, le minimum, c'est une fois par an, donc on fait une fois par an. Si les choses se passent bien, on pourra en faire nettement plus.
Je vais vous répondre, Madame Mallet, parce que là, vous m'agressez un petit peu.
Non, je ne vous agresse pas.
Vous me reprochez que personne de la société civile aurait souhaité quitter la commission, c'est ce que vous venez de dire, par le fait que moi et M. Solana, on aurait peut-être agressé, ça se serait mal passé de notre fait.
Oui.
Donc j'aimerais savoir, Madame Montoya a été là également, en quoi ça s'est mal passé la réunion.
Quand on a une commission où on ne décide rien, parce qu'une commission ne décide pas. On fait des propositions, vous le savez, c'est bien que moi.
J'en ai fait.
Et que y a les propositions qui sont faites autour de la table, personne ne dit rien. Tout le monde est d'accord sur les propositions qui sont faites. Et que quand on quitte la commission, on reçoit des mails et on inonde de mails les différentes personnes qui ont fait aussi ces propositions, en leur disant que c'est scandaleux de baisser l'âge du cadeau pour les personnes âgées, etc.
J'ai envoyé ces mails.
On va pas. Attendez. Alors, moi, je vais.
Est-ce que j'ai envoyé ces mails ?
Non, mais on a reçu ces mails.
Non, mais peu importe, c'est à moi que vous parlez.
Alors, mais non, c'est pas à vous que je parle. Je réponds à la question.
À la commission sociale, comme élu de l'opposition, il y a moi-même et M. Solana.
Oui.
Donc là, vous vous adressez à moi en disant, devant tout le monde.
Oui. Non, je m'adresse aux personnes qui se plaignent qu'il n'y a pas de commission. Moi, je vous explique pourquoi il n'y a pas de commission.
Mais non, dans la commission sociale,
alors, attendez, on va pas
ensuite.
Non, on peut continuer le débat à un autre moment, pas ce soir, hein, parce que je ne veux pas.
Mais
on peut le continuer à un autre moment si vous le souhaitez. Moi, j'attendais que vous me posiez cette question pour pouvoir vous répondre.
Alors, écoutez, il y avait. Alors, moi, je vous ai répondu. Vous étiez présente. Est-ce que j'ai été désagréable à cette commission ? Est-ce que nous sommes
personne, attendez, personne n'a été désagréable, personne, non, c'est ce que je viens de dire. Tout le monde était d'accord sur ce qui s'était passé.
Vous m'avez dit à l'instant, Madame Valérie, je ne vous inviterai pas parce que suite à vos dires, les personnes ont voulu quitter.
Non, ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle ne réunirait qu'une fois par an la commission. Et que les groupes de travail travailleraient à côté, que vous n'êtes pas manifesté au groupe de travail, et que ça s'était mal passé non pas pendant la commission, mais après. Et de toute façon, je rejoins Madame Mallet là-dessus, parce qu'on a eu le même problème par rapport à la commission économique, où normalement les commissions sont faites pour travailler, non pas pour. Et donc on jette des idées et on est censé travailler. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il faut pouvoir travailler dans un climat serein. Mmh. Et si le lendemain on doit voir par mail ou partout la publication de ces idées qui ne sont pas des décisions, ben, ce n'est pas une façon de travailler. Et je comprends que nous, quand on a voulu ouvrir ces commissions à l'extérieur, aux habitants, quand ils reçoivent et qu'ils sont harcelés de mails, parce que ces habitants-là, ils subissent ce que nous, on a subi au quotidien et ce qu'on subit régulièrement, ils ont subi ce harcèlement-là, et bien ils ne sont pas engagés pour ça, et je comprends tout à fait. Nous, on le subit normalement, et on ne dit rien, mais je comprends que ce n'est pas une façon de travailler. Et donc, si c'est pour mettre partout, en disant on va prendre cette décision, alors que la décision n'est pas prise, ce n'est pas normal.
J'entends ce que vous dites, voilà. Mais est-ce que M. Solana et moi-même, qui faisons partie de cette commission avant.
Vous avez diffusé visiblement des informations. Oui. Madame Houry en atteste. Et vu que c'était elle qui
était originaire du Maroc, je les
assure. Je vous propose de lever la séance.
Non, je n'ai pas fini. Madame le maire.